France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La situation sera extrêmement compliquée si le Parlement britannique rejette l'accord sur le Brexit demain. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, prévient, après s'être réjoui un peu plus tôt de l'accord finalisé et annoncé hier entre Londres et Bruxelles. Les 27 pays membres de l'Union ont adopté les nouvelles modalités du divorce. À 13 jours du Brexit, le Premier ministre Boris Johnson espère maintenant faire adopter ce même accord par la Chambre des communes à Londres. Il n'y dispose pas de majorité, rien n'est donc encore acté. Le vote est prévu demain samedi. Et lors du Conseil européen hier à Bruxelles, les 27 ont par ailleurs appelé la Turquie à cesser son offensive dans le Kurdistan syrien. Mais c'est à l'issue d'une rencontre avec le vice-président américain Mike Pence que le président turc annonçait effectivement hier une trêve de 5 jours en Syrie. Les combattants kurdes ont 120 heures pour quitter une bande de terre de 120 km à la frontière. Trêve acceptée hier soir par les forces démocratiques syriennes. Paris et Bagdad ne se sont pas mis d'accord pour gérer les 10 000 djihadistes détenus en Syrie par les Kurdes. Parmi eux, entre 2 500 et 3 000 sont étrangers, 60 djihadistes sont français. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, veut que ces djihadistes soient jugés en Irak. Hors de question, a répondu le pouvoir sur place, qui demande à ce que chaque pays reprenne ses ressortissants. Il s'était inspiré des attentats du 11 septembre. Un homme de 22 ans a été mis en examen puis écroué en France au début du mois. Son projet de détournement d'avion a été déjoué. Voilà ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, invité de France 2. Et puis notez que pour la quatrième soirée de suite, des militants indépendantistes se sont rassemblés hier en Catalogne. Ils se mobilisent contre la condamnation de leurs dirigeants à de lourdes peines de prison. Mobilisation régionale, aujourd'hui une grève est annoncée. Des marcheurs convergent vers Barcelone et doivent s'y retrouver aujourd'hui.
Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Alors que les œuvres de l'artiste contestataire Banksy qui conteste le marché s'envolent en salle des ventes, le temps du débat se pose une question simple. Un art sans marché est-il encore possible?
Le temps du débat, ce vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr.
James Ellroy est à Radio France, le lundi 18 novembre, en public au Studio 104. À 20h, le maître du roman noir américain est l'invité de Laura Adler pour L'Heure Bleue. À 21h, Requiem for Danny. Opéra radiophonique librement inspiré du roman The Big Nowhere, avec le big band de Jean-Louis Marchand et la participation exceptionnelle de James Ellroy. Réservation maisondelaradio.fr. Requiem for Danny, un disque collection signature Radio France, en partenariat et en direct sur France Inter.
Et c'est France Culture que vous écoutez ce matin, il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir le grand auteur américain Charles Burns qui fait donc le réveil culturel ce matin à l'occasion de la sortie de Dédale chez Cornelius, une bande dessinée qui marque son retour au 9e art. On retrouve dans ce premier volume d'une trilogie annoncée tous les thèmes chers à Charles Burns, le dédoublement de la personnalité, les frontières poreuses entre mondes extérieurs et mondes intérieurs, entre passé et présent, entre réalité virtuelle et rêve profond. On retrouve aussi son dessin particulier, très noir, haché, lumineux, couleurs pastel, sombres, gros plans sur des visages inquiets. Dédale peut se lire comme une hallucinante descente dans l'imaginaire torturé de Charles Burns. Cet album qui sort en France en avant-première mondiale illustre que Charles Burns est au top de sa carrière. Il ne lui manque plus que le Sacre d'Angoulême, mais c'est comme si c'était déjà fait. La preuve, il signe une des trois affiches de la prochaine édition du Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême. Une affiche en forme d'hommage à l'étoile mystérieuse. son Tintin préféré. Comme quoi, l'homme a bon goût. Il est notre invité ce matin. Prise de son, Georges Thau. Coordination, Corinne Amar. Réalisation, Vincent Abouchard.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Avec Dédale, donc, qui sort cette semaine, édité par Cornelius, et qui sort d'ailleurs en France, d'abord en France, et dans sa traduction française assurée par David Langlais, vous commencez une nouvelle série, peut-être une trilogie, et nous, conditionnés par tout ce que nous avons lu de vous depuis votre Black Hole, votre grande œuvre de référence, réalisée en chapitre album, et qui se sont étalées sur toute une décennie, on se dit, en découvrant les premières pages de Dédale et ses principaux protagonistes, qu'on est en terrain connu, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on va se perdre encore, une fois de plus, avec vous, dans un labyrinthe de territoires oniriques, troublants et fantasmatiques, entre voix intérieures et paroles prononcées ou chuchotées, entre vie réelle et vie rêvée, entre la vie et ses représentations, entre la représentation de la vie via le dessin et le cinéma, et la représentation de ses représentations en bande dessinée.
Oui, l'une des idées qui traverse ce nouveau livre, c'est celle des films, de ce que ça représente. Il y a aussi des films d'horreur faits maison dans ce livre par rapport à la réalité que vivent les personnages. Donc il y a en permanence cette interaction entre la vie réelle et la vie projetée sur l'écran. L'idée de réaliser un film et qu'est-ce qui terminera par figurer à l'écran. L'un des points de départ, c'est que les personnages finiront par faire un film ensemble. On en parle tout le long du livre, et puis à un moment, il finira par y avoir un film. Donc l'idée d'écrire des scénarios, de faire le scénario de son propre film, et en même temps de montrer toutes ces interactions, ces personnages, en train de filmer, en train de créer le film,
the story,
de créer l'histoire. C'est une histoire à l'intérieur d'une histoire.
That's kind of a core idea.
C'est vraiment l'idée centrale, effectivement, de ce livre-là.
Of course, I find myself returning to.
Bien sûr que je m'aperçois que je ne cesse de revenir avec obsession à certains thèmes qui me tiennent à cœur. Dans cette série, il y a deux personnages principaux. Un personnage principal masculin et un personnage principal féminin. Donc il y a quelques similarités avec des techniques narratives que j'ai déjà utilisées dans Black Hole. Mais pour moi, tout semble neuf. Et ça semble une histoire unique à part entière.
Mais plusieurs histoires, je dirais même, Charles Burles, dans votre bande dessinée, Dédale, on va parler peut-être maintenant des personnages principaux, Brian et Laurie, donc le personnage masculin qui est jeune, hein. L'album s'ouvre sur une fête de jeunes, c'est des jeunes gens qui se retrouvent pour faire la fête, et le clou de la soirée, c'est la projection des petits films d'horreur tournés par deux d'entre eux en Super 8. Il y a quelques années, l'un des deux auteurs de ces films amateurs se tient à l'écart, préférant dessiner sur un coin de table de la cuisine, en regardant dans un grille-pain chromé son reflet déformé. Et ce dessinateur est tout à la fois le personnage de l'histoire, dont on ne sait pas d'ailleurs cette histoire si elle va basculer dans la romance ou dans une autre dimension, mais en plus d'être le personnage, il est le narrateur. Est-ce que Brian est votre double, ou c'est peut-être vous quand vous étiez jeune, votre faux double ou votre double, Charles Burles?
When my wife read...
Quand ma femme a lu le livre, elle a dit « Ah, Brian, c'est toi ». Mais mon impression, c'est que j'utilise une partie de moi dans chacun de mes personnages. Donc oui, j'ai fait des films, effectivement, avec mes amis quand j'étais jeune. C'était très important quand je grandissais. Ça jouait un rôle majeur. J'ai rencontré un ami qui avait sans doute 15-16 ans, et il avait un caméscope, il avait une collection de petits films en 8 mm et de films d'horreur qu'ils avaient réalisé avec des amis. Et en fait, ça m'a ouvert tout un monde. L'idée de réaliser son propre film avec ses amis. On a fait quelques films qui, d'un point de vue très relatif, étaient quand même assez complexes. Les films originaux en 8 mm faisaient peut-être 5 minutes. On enregistrait 5, 6, 7 bobines, et puis ensuite on faisait tout un travail de montage, on choisissait les lieux de tournage, on faisait attention aux costumes, à la cohérence des costumes. Mais évidemment, c'était des histoires très enfantines. Et bien sûr, dans certains cas, parfois on était même 10 à travailler ensemble sur un projet de film.
Donc
ça fait partie de ce qui m'a donné envie d'explorer ces idées-là, cette intensité qu'on peut trouver à travailler ensemble sur ce genre de projet que j'ai eu étant jeune. Je ne sais pas comment ce serait aujourd'hui, rien que de pouvoir utiliser un iPhone, la qualité des vidéos qu'on est capable d'enregistrer en très haute résolution. Il suffit d'appuyer sur un bouton et on voit tout de suite le résultat, on peut tout de suite faire du montage, travailler dessus. Pour nous, c'était vraiment le film classique en 8 mm. C'était vraiment une caméra très brute. On était très peu compétents. Donc parfois, les résultats, par rapport à l'argent qu'on y avait consacré, au temps qu'on y avait consacré, on attendait que le film revienne du magasin. Quand on allait le chercher, on s'apercevait que toutes les trois premières minutes étaient en noir, toutes noires. Et on se disait, mince, on a passé tout ce temps, on a consacré tous ces efforts. Je ne les montrerai jamais à personne, en dehors de ma propre famille et de mes amis très proches. Ils sont vraiment affreux.
Du coup, on a envie de les voir dans une exposition, par exemple, Charles Burns.
That will never happen.
Ça n'arrivera jamais.
I promise you.
Je vous promets.
Pour résumer la richesse graphique de Dédale, reprenons l'histoire. Donc Brian, le héros, est tout à la fois dessinateur. Donc il y a le traitement de l'histoire qui se passe, c'est-à-dire l'histoire de Brian, de sa copine Laurie, de ses amis. Brian est dessinateur, donc il y a aussi un traitement de comment il se dessine, comment il se voit, comment il se rêve, des fois dans des moments très durs, cauchemardesques. Il y a aussi cette dimension des films en Super 8 qu'il a tourné avec son ami. Et là aussi, vous avez un autre traitement pour montrer ces films en Super 8 dans la bande dessinée Charles Burns. Et puis enfin, bien sûr, c'est un mordu des films d'horreur. Et là, il y a aussi des séquences où on suit les personnages dans un cinéma et où vous représentez quelques scènes clés des films qu'ils sont en train de voir. Ça veut dire autant de traitements pour chaque représentation.
J'ai toujours été attiré par l'idée de combiner différents types d'images. Avec la bande dessinée, bien sûr, il y a une association entre les mots, les images, il y a une alchimie. Et ça permet de raconter une histoire qu'on ne peut pas raconter uniquement avec des mots ou uniquement avec des images. Mais j'aime aussi, comme vous le disiez, présenter différents fils narratifs. Par exemple, comme vous l'avez dit, le film, le récit du personnage principal, et les associer, les présenter ensemble, et créer un effet grâce à cette association. Et la manière dont l'histoire se développe dépend de toutes ces couches de fils narratifs superposés et de leur interaction. Je ne sais pas si je m'explique très clairement, mais à chaque fois que vous superposez deux images, que vous associez deux images l'une à l'autre, le cerveau humain, même quand il n'y a pas de lien, le cerveau humain en fait, il crée des liens. Et c'est quelque chose que j'ai toujours en tête avec mes histoires. Il y a parfois des cadres silencieux qui présentent une image sans interprétation, sans narration, justement. Mais ça fait partie du récit, dans la manière dont ça interagit avec les autres images.
Charles Burns, c'est dans votre tête, dans notre tête, mais vous arrivez à cette prouesse de représenter ça en bande dessinée.
One thing that is good
while using color is
you can. Il y a quelque chose d'intéressant quand on utilise la couleur, c'est qu'on peut montrer ces aspects-là au lieu de devoir les expliciter.
When I was writing this book, there were
quand j'écrivais ce livre, il y a eu des moments où je me suis dit, il faut peut-être que j'explique ça. Et en fait, rien qu'en montrant, on trouve une manière de faire en sorte que ça fonctionne. Avec la couleur, on peut montrer évidemment un film en noir et blanc. Il n'y a pas besoin d'expliquer. On voit bien que les personnages vont au cinéma, mais quand on voit le film, on voit qu'il est en noir et blanc. Et donc déjà, cette comparaison se fait.
Mais comment vous avez obtenu cette texture, par exemple, de ce noir et blanc ? On voit tout de suite que c'est un film. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériau, justement, pour ces différentes représentations qui sont au centre de Dédale, Charles Burns?
It's a technical question.
C'est une question technique.
J'ai utilisé des crayons, j'ai utilisé des fusains.
Pour créer les gris et pour les intégrer dans le noir et blanc. Je connais beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Pour moi, c'était une expérimentation. J'ai utilisé aussi Photoshop, j'ai assemblé tout ça. Et pour créer l'effet que je désirais, et j'ai trouvé le moyen d'y arriver.
Par exemple, quand j'étais.
Par exemple, dans le livre, je montre le film en 8 mm réalisé à la maison. Et au début, j'utilisais toutes sortes de crayons pour lui donner un aspect dont j'ai réalisé qu'il était trop réaliste, en fait. Alors que quand je montre les Body Snatchers, l'invasion des profanateurs, c'est hyper réaliste. Mais c'est logique, puisque les gens connaissent ce film. Je ne voulais pas faire une version en BD de ce film, je voulais que ça ressemble au film. Et puis quand ensuite on revient à ma manière de dessiner plus classique.
Avec Charles Burns ce matin sur France Culture dans le Réveil Culturel à l'occasion de la sortie de Dédale édité par Cornelius. Et cette version en français sort en avant-première, c'est une sortie mondiale, c'est-à-dire avant même la sortie en version anglaise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Charles Burns ?
Le livre précédent que j'avais fait, qui a été publié dans un recueil qui s'appelle Last Looks aux États-Unis et qui était en réalité une trilogie composée de trois volumes. J'ai eu avec ce livre l'impression globale qu'en Amérique, il est difficile de présenter des séries en matière de livres. J'ai eu le sentiment que c'était difficile pour mon éditeur et peut-être aussi pour le public. Alors que le format de l'album à la franco-belge, c'est quelque chose de tout à fait normal ici. Donc au moment où j'ai publié, donc j'ai décidé en fait de publier cette série cette fois-ci en France en premier, et peut-être qu'en fait ce sera le recueil de la série qui sortira aux États-Unis. Donc effectivement c'est une exclusivité en France et ça mettra un peu de temps avant d'arriver au public américain. À moins que tous ces Américains apprennent le français. Mais je ne crois pas que ça arrivera.
Dans Dédale, votre dernière bande dessinée, Charles Burns, on retrouve tous ces êtres cauchemardesques, tous ces humains monstrueux qui peuplent non pas l'histoire, mais l'inconscient des personnages. Des personnages qui sont plus ou moins psychotiques, dont on se demande s'ils ne vont pas devenir psychopathes. Mais plus inquiétant que ce monde intérieur représente, d'ailleurs par vos dessins, c'est la réalité tordue de la vie réelle qui a l'air de menacer tous les personnages. Et là, en l'occurrence, c'est une bande de jeunes.
Pour moi, il y a toujours une interaction entre un monde intime, un monde intérieur, personnel, et la manière dont les personnages se présentent dans la réalité et interagissent avec elle. Dans cette histoire, comme dans d'autres, il y a des pans de l'histoire où il est difficile de dire en fait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ça me convient très bien d'avoir ce type de flou sur la réalité et ce mélange entre des choses peut-être un petit peu troublantes, un peu inquiétantes, un peu difficiles à comprendre. Est-ce que ça se passe vraiment ? Il y a des moments qui sont limpides et qui semblent tout à fait normaux, et puis on dérive vers quelque chose de plus sombre. Donc ça, c'est intentionnel. Ce sont des idées qui m'intéressent.
Dédale vient de sortir chez Cornelius, c'est le premier tome. Est-ce que ça va être une trilogie, une série ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de tomes vous imaginez pour raconter cette histoire ? Parce qu'on sait que tout est structuré chez vous, ça on l'a appris quand l'intégrale de Black Hole est sortie. Vous nous aviez bien expliqué que l'histoire, vous l'aviez en tête depuis le début, que d'abord vous structurez l'histoire avant de vous attaquer au dessin. Est-ce le cas pour Dédale ?
Donc c'est le premier volume et il y aura au moins trois livres. Mais je laisse les choses ouvertes, je laisse l'histoire se déployer et peut-être qu'elle sera plus longue si c'est nécessaire. Je suis ravie d'avoir ce genre de liberté et de pouvoir explorer. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît plus, avoir une idée de départ et ensuite découvrir au fur et à mesure quelque chose de plus fort, quelque chose de nouveau, au fur et à mesure où je développe l'histoire et où elle se développe.
Pour moi, l'histoire
est générée par des notes que je prends en permanence. Je note des choses, j'assemble des notes. Au fur et à mesure où je travaille sur une histoire, je fonctionne page par page. Je travaille quelques pages en même temps. Je ne fais pas vraiment de scénario terminé avec des dialogues, avec une narration. Donc il y a quand même des éléments d'improvisation. Je sais l'histoire que je veux raconter et je dois trouver la meilleure manière de le faire. Donc j'ai des notes qui remontent à probablement il y a 10 ans. Des idées, des éléments de l'histoire que je trouve moyen de raconter aujourd'hui. Donc c'est une question d'écrire et de réécrire en permanence et de condenser les choses, de les clarifier.
Charles Burns, maintenant qu'on vient d'apprendre que vous avez tourné des films d'horreur en Super 8 avec votre petite caméra ensuite quand vous étiez jeune. D'ailleurs, le cinéma va vous rattraper puisque vous allez participer à ce film collectif Peur du Noir avec entre autres Blotch, Lorenzo Mattotti. Qu'est-ce que la bande dessinée a de plus que la photo et le cinéma ? Qu'est-ce qu'elle vous donne comme moyen supplémentaire pour raconter une histoire, transmettre des sentiments ?
Avec les films, c'est un médium collaboratif. Même quand vous êtes le réalisateur, vous comptez toujours sur quelqu'un pour faire le son, le montage. Il est possible de faire tout ça, mais ce que j'adore avec la bande dessinée, c'est qu'il n'y a que moi. Je dois évidemment compter sur un éditeur pour assembler tout ça et le présenter au monde et le diffuser, mais en tout cas, tous les choix, le travail, en fin de compte, je peux terminer un livre et il est vraiment à moi. Alors que les films sont davantage le fruit de collaboration. La photographie, j'adore faire des photos. Je voudrais en faire davantage, je voudrais pouvoir y consacrer plus de temps. Mais je pense qu'en fin de compte, ce que je préfère, c'est une manière de raconter des histoires bien précises. Et je pense que les photos peuvent en raconter, mais... Mais la langue de la bande dessinée est quelque chose auquel je finis toujours par revenir pour pouvoir raconter mes histoires.
Pour Dédale, on a attendu 5 ans avant de vous retrouver dans le monde de la bande dessinée, Charles Burns, puisque la dernière bande dessinée parue ici en France est Calavera. Entre-temps, vous avez fait beaucoup d'expositions. Et vous avez sorti 2 livres, 2 dessins, Vortex et Loveness qui vient d'être réédité. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? C'est de dessiner ou de raconter une histoire ?
Je crois que l'époque où j'adorais dessiner, c'est vraiment quelque chose qui est derrière moi, dans le passé pour moi. J'avais beaucoup plus de plaisir immédiat dans le fait de dessiner quand j'étais plus jeune. Ce n'est pas que ce soit atroce de dessiner des bandes dessinées, mais c'est difficile. Je le fais depuis des années. Et je me dis toujours que je devrais être meilleur, que je devrais être plus professionnel, que je devrais être capable de dessiner plus vite, plus facilement, de raconter des histoires plus facilement. Pour moi, c'est un processus très lent. Mais je pense que je suis plus heureux quand j'ai un récit, quand je peux établir une narration.
Est-ce que vous sentez que vous avez une place dans un mouvement artistique américain, mondial, dans la bande dessinée ou en dehors de la bande dessinée ?
For years and years, depuis des années,
I would be
on me présente comme Charles Burns, connu par Art Spiegelman et le magazine Raw. Donc pendant très longtemps, j'ai été identifié comme artiste de Raw. C'est une des premières publications pour laquelle j'ai dessiné. En 1981, j'ai dû commencer, donc c'était une époque bien particulière où la BD underground américaine était plus ou moins touchée à sa fin et il y avait une influence de Françoise Moury, donc qui était la directrice new-yorkaise d'Art Spiegelman, qui venait donc de cette bande dessinée underground américaine. Et puis il y avait aussi des artistes européens qui n'avaient jamais été publiés aux États-Unis. Et toujours aussi cette influence de cette narration très libre qu'avait la BD underground. Donc s'il y a un groupe d'artistes avec lesquels je me sens une des affinités, s'il me faut une étiquette, je pense que c'est vraiment cette période-là qui me définit. Il y avait l'artiste américain Gary Panter, très différent de moi, Art Spiegelman, Mark Byer. Pour n'en citer que quelques-uns. Mais il y avait une vraie diversité, il y avait toute une gamme de styles, d'idées, de styles artistiques. Mais ils cherchaient une intensité dans leurs œuvres. Et j'avais de la chance de faire partie de ce groupe.
Merci beaucoup, Charles Burns.
Thanks.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Et vous pouvez vous abonner au podcast du Réveil culturel en passant par l'application de Radio France. Tous les vendredis, on parle de l'actualité de la bande dessinée dans le Réveil culturel. Mais il y a désormais un deuxième rendez-vous consacré à l'actualité du 9e art, le Rayon BD. C'est tous les dimanches à 15h30. Mais la BD, on en parle aussi dans la Grande Table, la dispute et mauvais genre. Je vous parle de mauvais genre parce que je sais qu'ils vont inviter eux aussi Charles Burns pour marquer, comme il se doit, son retour à la bande dessinée. Bon vendredi, bonne bulle de bonne humeur pour ce week-end, on se retrouve lundi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, découvrir, décrypter, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Il faut évoquer le sort des personnes autistes, c'est ce que nous allons faire ce vendredi dans les matins, en compagnie d'un militant pour la dignité des personnes autistes, Hugo Auriot, et de deux cinéastes, Olivier Nakache et Eric Toledano. Ils consacrent un film à ce thème, hors norme, dans les salles mercredi prochain.
Les matins de France Culture, ce vendredi dès 7h et sur franceculture.fr. France Culture présente l'Immersive Art Festival. L'Atelier des Lumières accueille 11 collectifs artistiques parmi les plus influents dans le monde des arts numériques. Leurs créations inédites sont mises en compétition et présentées le temps de 7 soirées. Entre digital design, projection vidéo et spécialisation sonore, découvrez un concept artistique original, totalement immersif, et votez pour votre favori. Immersive Art Festival, du 18 au 24 octobre à l'Atelier des Lumières, Paris. Un événement France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Une trêve de 5 jours est annoncée par la Turquie à la frontière syrienne. 5 jours pour que les combattants kurdes puissent quitter le territoire. Ankara et Washington se sont mis d'accord hier soir. Donald Trump se veut triomphant, mais l'épisode diplomatique laissera des traces, vous le comprendrez. Dans ce journal, nous irons aussi en Irlande prendre le pouls de la population après l'annonce, là aussi, d'un accord. Londres et Bruxelles ont trouvé un terrain d'entente pour le Brexit. Ça ne plaît pas à tous les Irlandais. Quelle mobilisation pour les deux chercheurs français emprisonnés en Iran. Leurs collègues réunis hier soir à Paris veulent suspendre la coopération scientifique avec Téhéran. Témoignage à suivre dans cette édition. Près de 10 jours après le déclenchement de l'opération militaire turque en Syrie, les Américains ont donc obtenu d'Ankara un cessez-le-feu provisoire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est engagé hier soir auprès du vice-président américain Mike Pence. Il s'est engagé à cesser les hostilités pendant 5 jours, le temps pour les forces kurdes de se retirer de la zone frontalière. Un accord donc hier soir dont s'est largement félicité Donald Trump, Gregory Phillips.
Juste avant un meeting politique à Dallas, Donald Trump dit que c'est un grand jour pour les États-Unis, un grand jour pour la Turquie et un grand jour pour les Kurdes. Ce que la Turquie a obtenu, commente encore le président américain, c'est qu'ils n'auront pas à tuer des millions de personnes et personne ne cherchera à tuer des millions d'entre eux. Je veux dire, ça aurait pu être une guerre beaucoup plus large avec beaucoup plus de groupes impliqués. Il y a 2 jours, par 354 voix contre 60, la Chambre des représentants avait massivement condamné le choix stratégique de Trump de laisser le champ libre aux Turcs afin qu'ils mènent cette opération militaire. Hier soir, dans le camp républicain, le sénateur Lindsey Graham reconnaissait un progrès significatif, mais son collègue de l'Utah, Mitt Romney, était beaucoup plus circonspect. Nous sommes loin d'une victoire, dit-il. Ce cessez-le-feu n'efface pas le fait que l'Amérique a abandonné un allié. Ce que nous avons fait aux Kurdes restera comme une tache sanglante dans l'histoire de notre pays. En 10 jours, l'offensive turque a fait près de 500 morts, dont une centaine de civils, et provoqué le déplacement d'environ 300 000 personnes. Après la signature de ce cessez-le-feu temporaire, Donald Trump dit qu'il abandonne les sanctions contre Ankara et confirme que le président Erdogan est bien invité à la Maison-Blanche à la mi-novembre.
Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. J'ajoute que le commandant des FDS, les Forces démocratiques syriennes, alliance de combattants kurdes et arabes, ce commandant se dit prêt à respecter le cessez-le-feu proposé par Ankara. Accord trouvé là aussi entre Londres et Bruxelles. Les 27 l'ont même validé dans la foulée hier lors du Conseil européen. Un texte sur le Brexit sur lequel les négociateurs se sont mis d'accord. Ils abandonnent le backstop irlandais. Le filet de sécurité pour éviter une frontière en Irlande s'est donc abandonné. L'Irlande du Nord devrait être alignée sur le régime douanier européen. Ce qui suscite peu d'enthousiasme finalement dans les rues de Belfast et Mlynvain.
Ce sont des Belfastois un peu lassés des négociations sur le Brexit qui ont découvert le nouvel accord. En tant que Nord-Irlandais, Alan se sent soulagé que la situation soit débloquée.
Je n'aime pas l'idée que l'on puisse prendre en otage tout le monde parce qu'on est Nord-Irlandais. Je sais que c'est compliqué de parvenir à un accord raisonnable. Certains partis d'Irlande du Nord ont déjà dit qu'ils ne soutiendraient pas l'accord. Mais je suis optimiste, on va trouver un terrain d'entente.
L'opposition systématique des unionistes du DUP agace Cormac. même si cet ingénieur en informatique ne cache pas son scepticisme quant au texte.
Ça ressemble à un cache-misère. J'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner, si ça peut fonctionner.
Même méfiance pour Michael, européen convaincu. Lui espérait carrément qu'aucun accord ne serait trouvé pour obliger Londres à organiser un deuxième référendum et à davantage prendre en compte l'Irlande du Nord.
On a voté en majorité pour rester dans l'UE. On aurait aussi bien fait de ne pas voter puisque c'est l'Angleterre qui décide. Ça ne ferait pas de mal à Boris Johnson de ne pas seulement écouter le DUP. Il ne représente qu'une minorité de gens.
À côté de lui, son épouse Amanda éclate de rire. De toute façon, rien n'est fait tant que le Parlement britannique n'a pas validé.
Un Parlement qui doit en effet se prononcer sur l'accord demain. Il manque au Premier ministre Boris Johnson entre 10 et 20 voix pour réussir à le faire adopter. Les États-Unis avaient prévenu, voilà que les surtaxes sur les droits de douane dans l'Union européenne entrent en vigueur ce matin. Surtaxes à hauteur de 7,5 milliards de dollars. Elles sont de 25% sur différents produits européens comme le vin français ou le fromage italien. 10% de plus sur les avions Airbus. Nouvelle nuit de tensions et de barricades à Barcelone, à l'aube d'une grève générale annoncée ce vendredi. Depuis 4 jours maintenant, des manifestations indépendantistes se mobilisent, ont lieu contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Les manifestants se mobilisent depuis lundi donc. Et puis en bref, encore noter que le Venezuela et le Brésil entrent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ces deux pays où des atteintes aux droits humains sont régulièrement dénoncées par les ONG, ces deux pays siègent entre 2020 et 2022. La détention du chercheur français Roland Marshall en Iran était révélée avant-hier publiquement. Il rejoint ainsi Fariba Adelka, scientifique elle aussi, et emprisonnée en Iran. Pour les soutenir, leurs collègues universitaires demandent à suspendre la coopération scientifique avec Téhéran. Olivier Poujade a rencontré leurs collègues hier.
Ça fait 134 jours.
134 jours qu'ils savent que leur confrère est retenu par le gouvernement iranien. 134 jours et leur voix tremble encore. Ils sont tous chercheurs, tous proches de Roland Marshall, tous comme Zekeriya Ouldamed Salem, professeur à l'université de Chicago, révolté par l'attitude des autorités iraniennes.
C'est vraiment mal avisé parce que Roland Marshall n'écrit pas sur l'Iran. C'est un expert de l'Afrique, très connu sur l'Afrique. Scrupuleux et soucieux d'être équilibré et nuancé dans ses recherches, y compris envers les pouvoirs occidentaux. Donc on ne peut en aucun cas l'accuser d'être l'agent de qui que ce soit. Les autorités iraniennes ont décidé de ramasser des assets des gens et de les utiliser dans une marchandise dont ils sont les seuls à connaître les secrets.
Le CNRS vient d'annoncer qu'il suspendait toutes les missions de ses chercheurs en Iran. L'universitaire suisse Didier Péclard estime également qu'il est temps d'agir, mais en évitant une opposition frontale avec Téhéran.
Qu'on ne réduise pas cet élément-là à uniquement la question éventuellement sordide d'échange d'otages, etc. Mais bien d'insister sur le fait qu'il s'agit de prisonniers scientifiques, mettre sur la table en fait le fait que de restreindre la liberté académique met en danger des collaborations qui sont en fait tout à fait profitable à tout le monde en Iran, y compris au gouvernement en place.
14 universitaires sont aujourd'hui détenus par Téhéran, accusés de collaboration avec des États considérés comme hostiles par les gardiens de la révolution.
C'était Olivier Poujade pour France Culture. Le ministre de l'Intérieur affirmait hier soir qu'un 60e attentat avait été déjoué en France depuis 2013. C'était début octobre, juste avant l'attaque de la préfecture de police de Paris. Il s'agissait d'un détournement d'avion, voilà ce qu'a dit Christophe Castaner, invité de France 2 hier soir.
Un 60e attentat a été déjoué. Un individu qui voulait s'inspirer du 11 septembre et des avions qui ont détruit les tours du World Trade Center et qui effectivement a été interpellé par nos services. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà des attentats déjoués, 60, il est important de le préciser parce que nos services font un travail énorme tous les jours. Et très régulièrement, dans la semaine, on a des interpellations, on a des profils de gens radicalisés qui pourraient commettre un attentat, qui pourraient rentrer dans une logique d'un attentat que nous interpellons, que nous neutralisons. Et je ne dis pas ça pour en tirer une quelconque glorieuse personnelle. Tout à l'heure, je vous disais que si on cherchait la responsabilité du ministre tout le temps, on aurait un problème pour tous les ministres de l'Intérieur qui sont en responsabilité. Mais je ne revendique pas ces succès-là, ou je les porte. Je les incarne pour les policiers, pour les gendarmes qui font ce travail-là.
Christophe Castaner, hier soir sur France 2. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, était dans le Jura, hier à Lons-le-Saunier, pour un débat sur la future réforme des retraites. Beaucoup de questions sont ouvertes, a martelé Édouard Philippe. Une marge de négociation est possible, selon lui, notamment sur la période de transition vers ce futur système de retraite. Une grève interprofessionnelle est annoncée pour le 5 décembre prochain. Et hier, l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat de la SNCF, annonçait qu'elle rejoignait le mouvement. En bref, encore, Patrick Balkany revient devant le tribunal correctionnel de Paris cet après-midi, mais en tant que détenu cette fois. Cela fait un mois que le maire de Levallois est incarcéré à la maison d'arrêt de la santé après sa condamnation dans le premier volet de son procès, 4 ans de prison. Le jugement de la deuxième partie de l'affaire doit être rendu aujourd'hui. Les averses seront fréquentes ce vendredi sur une grande partie du pays, plus rares entre les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales où le soleil devrait briller. Il fait ce matin 11 degrés à Caen, 13 à Rennes, 14 degrés à Paris, comptez 15 degrés dans la matinée à Strasbourg, 16 à Bordeaux et Lyon et 21 degrés ce matin à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Jacques, le quotidien Libération vient de lancer une nouvelle revue numérique consacrée aux idées. Elle s'appelle Bulbe.
Bulbe, c'est cela, voilà, Jacques, comme les bulbes.
Comme les bulbes, pour, dit cette revue, pour prendre les idées par la racine.
Ah, c'est ça, exactement. Cette revue semestrielle, émanation du service idées de Libération, s'emploie à expliquer, analyser, mettre en perspective avec celles et ceux qui font avancer la réflexion sur un monde en profonde mutation. Dans cette première livraison, un grand entretien avec Naomi Klein et dans la rubrique Refaire l'histoire, l'interview de Romain Bertrand et Hélène Blais, coordinateur et contributeur de l'ouvrage collectif L'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes, publiée au Seuil. Un ouvrage où une équipe de 80 historiens déconstruisent le récit européocentré des grandes découvertes, à commencer par le terme lui-même de grandes découvertes, comme le précise Hélène Blais. Raconter les grandes découvertes comme on l'a fait à partir du 19e en les liant au progrès, au savoir et à la science a été une manière de forger un discours sur l'exceptionnalité de l'Europe et sur l'universalisme. Ce récit a contribué à justifier l'expansion coloniale de cette même Europe. Le projet s'inscrit dans le sillage de cette nouvelle historiographie dite connecté, où l'on élargit la focale à tous les acteurs de l'histoire. On parle souvent de Christophe Colomb et de Marco Polo, mais il y a aussi Al-Idrissi, qui remet sa carte du monde au roi de Sicile en 1154, ou encore Ibn Battuta, qui rallie l'Inde et les Maldives dès le XIVe siècle, rappelle Romain Bertrand. Tous les récits de voyage nous expliquent que les Européens arrivent un beau matin sur une plage, qu'ils ont traversé des océans immenses pour découvrir des mondes inconnus, et la page d'après, les voilà en train de converser avec les marchands et les notables des lieux, mais comment, dans quelle langue, grâce à qui? La fable du premier contact masque aussi le fait que la plupart de ces sociétés, en Afrique et en Asie, étaient déjà de longue date connectées au reste du monde. Et, ajoute Hélène Blais, l'historiographie récente a renouvelé la manière dont on a interrogé les archives de l'exploration. Elle cherche à donner voix à ces passeurs, longtemps restés dans l'ombre, interprètes, intercesseurs, figure de médiateur comme ce diplomate d'origine andalouse travaillant pour le sultan de Fès, capturé en 1518 par des chevaliers de l'ordre de Malte et vendu comme esclave à des marchands de passage, qui se fait ensuite baptiser à Rome par le pape lui-même et devient, sous le nom de Léon l'Africain, l'un des plus brillants cosmographes de son temps, transmettant les secrets de la connaissance arabe du Maghreb. Sa famille avait fui Grenade lors de la prise de la ville par les rois catholiques en 1492, une date évidemment emblématique de toute cette histoire et dont l'entrée dans l'ouvrage est assurée par Bernard Vincent. Pour les souverains espagnols, c'est l'année admirable avec l'achèvement de la Reconquista et la promulgation de l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne. Mais qui se souvient que, contrairement à la légende selon laquelle l'expédition de Christophe Colomb aurait été financée par les bijoux d'Isabelle de Castille, ce sont surtout des Juifs qui ont avancer les fonds, dont un grand commis de l'État aux finances, mais aussi philosophe et exégète biblique, Isaac Abravanel, Par ailleurs, la date est symbolique puisque la fin de la reconquête de la péninsule ibérique ouvre sur la douloureuse question des Morisques, les musulmans convertis de force et qui finiront par être expulsés eux aussi. Mais là, pas d'entrée pour cette date de 1609. Il est vrai que l'histoire est très documentée. Reste que 1492 dessine l'espace mental et idéologique au sein duquel se produit le surgissement du nouveau monde, souligne Romain Bertrand, au confluent d'un vaste réseau de sources morales et politiques, elles-mêmes issues de nappes profondes d'historicité, le rapport du monde ibérique à l'islam, l'antijudaïsme médiéval et l'affirmation heurtée d'une puissance étatique naissante. Revenir sur la construction de ce discours et montrer que l'on peut raconter autrement l'exploration du monde permet de mieux comprendre le rôle que s'est octroyé l'Europe dans ce qu'elle a appelé la modernité, résume Hélène Blais. D'autres mondialisations était possible. L'Empire ottoman, dont la légitimité califale se trouve reconnue jusqu'aux confins du Sahel et à Sumatra, et la dynastie des Qing, dont la souveraineté court des sommets himalayens jusqu'aux steppes mongoles, restent de formidables compétiteurs. L'histoire du monde est toujours l'histoire de la manière dont nous sommes arrivés ici et maintenant, et sa forme dépend donc intrinsèquement de ce que l'on entend par ce « nous » et par cet « ici et maintenant », observe Tamim Ansari, dans un ouvrage qui paraît aujourd'hui aux belles lettres, l'histoire du monde vue par la tradition musulmane. Le récit de l'histoire est toujours plus ou moins téléologique, orienté par cette vision, et celui de l'islam n'échappe pas à la règle. Mais sa version vaut le détour, elle est éclairante sur nous-mêmes et sur les relations que nous entretenons aujourd'hui encore avec le monde arabo-musulman. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui, le Rwanda s'engage à accueillir des migrants bloqués en Libye.
Oui, alors que la question migratoire est toujours au cœur des grands bouleversements actuels en Europe. Rappelons-nous qu'elle a servi d'argument, entre autres, aux artisans du Brexit. Alors que la Turquie a d'abord pris pour prétexte pour lancer son offensive militaire pour l'instant suspendue, sa volonté d'installer dans le nord syrien 2 millions de réfugiés. Alors que les États européens sont toujours aussi divisés, même si le tout récent accord de Malte constitue un tout petit pas vers plus de solidarité puisque 7 pays ont promis de se répartir les personnes débarquées sur la route de la Méditerranée centrale. Eh bien, c'est en Afrique que l'on s'engage, et c'est nouveau, à prendre part à l'effort, en l'occurrence au Rwanda. Bonjour Camille Lecause.
Bonjour Julie Gacon.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste au sein du think tank Migration Policy Institute basé à Bruxelles. Alors le Rwanda a signé un accord non pas avec l'Union européenne mais avec l'Union africaine et le Haut Commissariat aux réfugiés. Il s'était porté volontaire dès 2017 et ça concerne les migrants retenus en Libye.
Exactement. Donc en fait, tout commence en novembre 2017, après la publication par CNN d'une vidéo montrant un marché d'esclaves en Libye, qui avait à l'époque suscité une forte émotion. Et donc lors du sommet suivant entre l'Union africaine et l'Union européenne, les chefs d'État s'étaient engagés à faire quelque chose pour les migrants bloqués en Libye. À l'époque, le Rwanda s'était proposé pour accueillir ces migrants, mais c'était le Niger qui avait été retenu aussi du fait de la proximité géographique. Donc ce que l'on voit maintenant, c'est effectivement que ces évacuations vers le Rwanda vont avoir lieu. Depuis septembre, il y a eu déjà 2 évacuations pour un peu moins de 200 personnes. Donc c'est à peu près le tiers des 600 qui ont été annoncés. Ce que l'on voit, c'est que d'une part, ces évacuations se sont faites assez rapidement après l'annonce. Donc c'est plutôt un signe positif, en particulier compte tenu des difficultés à intervenir en Libye. Mais donc ça pose 2 questions principales pour le HCR et ses partenaires. D'une part, comment s'assurer que ces demandeurs d'asile et ces réfugiés qui vont être évacués ont accès à toute l'information nécessaire pour prendre une décision informée pour effectivement partir vers le Rwanda. Et ensuite, comment sont-ils sélectionnés?
Voilà, parce que il faut rappeler que le Rwanda compte 12 millions d'habitants, c'est parmi les plus peuplés du continent africain. Il s'engage à accueillir au total 30 000 personnes, mais par groupe, vous le disiez, de 5 ou 600 pour éviter que le pays ne soit débordé. Alors comment sont-ils sélectionnés? C'est toujours la question qui se pose à chaque fois qu'il y a que ce genre de procédure a lieu sous l'égide du HCR, mais surtout de quelle nationalité? Parce qu'on parle de migrants surtout de la Corne de l'Afrique. Ils sont nombreux en Libye?
Exactement. Donc, pour l'instant, ceux qui ont été évacués vers le Rwanda sont essentiellement des gens de la Corne, en particulier des Érythréens, mais aussi des Somaliens, des Soudanais, des Éthiopiens. Donc, des gens de la région, et donc ils sont maintenant dans un centre au Rwanda où le HCR leur a prodigué des soins de nécessité, en particulier pour ceux qui sortent juste de centres de détention et qui ont donc vécu dans des conditions absolument horribles.
Et quelles options pour eux alors? Qu'est-ce qui se dessine pour eux?
Alors en fait, pour l'instant, il y a vraiment quatre options qui leur sont proposées au Rwanda. La première, c'est le retour dans leur pays d'origine. Donc ça, c'est un service qui est généralement proposé par l'Organisation internationale des migrations.
Et les pays en guerre en général ou...
Voilà, exactement. Pour les Somaliens ou les Érythréens, on les imagine mal retourner dans leur pays. La deuxième option, c'est de retourner dans un pays où ils étaient précédemment réfugiés. Donc là, cela pourrait s'appliquer par exemple aux Érythréens qui bien souvent sont passés par l'Éthiopie ou le Soudan où ils étaient réfugiés. Mais ça pose quand même une question politique parce que si l'on prend par exemple l'exemple d'un Somalien qui a été au Kenya auparavant où il était réfugié, au Kenya, l'accueil des réfugiés somaliens est très politique. Et donc, on voit mal le gouvernement kényan être très enthousiaste à l'idée de recevoir à nouveau des réfugiés somaliens depuis le Rwanda. Donc, ça, ce sont les deux premières options. La troisième option, c'est la réinstallation. Donc ça, c'est un mécanisme que l'on a vu au Niger. Donc, en fait, l'idée, c'est pour des réfugiés dans un pays d'accueil, de pouvoir aller dans un pays donc généralement au nord,
européen
ou États-Unis, Canada. Et donc ça, c'est un peu la différence par rapport au mécanisme d'évacuation qui avait été mis en place au Niger. Pour l'instant, on n'a pas eu d'engagement aussi ouvert, aussi public, qu'il va y avoir de la réinstallation depuis le Rwanda. Donc ça, c'est la troisième.
La dernière option, c'est que les réfugiés restent sur place. Et en tout cas, Paul Kagame a dit que ce serait possible, qu'ils pourraient rester au Rwanda.
Exactement. Et donc la question qui se pose, c'est sous quel statut ces gens vont pouvoir rester? Est-ce qu'ils vont avoir accès au statut de réfugiés? Pendant combien de temps ça va prendre pour qu'ils aient accès à ce statut? Et ça pose la question plus généralement de la situation des réfugiés au Rwanda.
Oui, ce sont les opposants au président rwandais Paul Kagame qui parlent d'instrumentalisation des réfugiés par le pouvoir. Ils parlent d'une mesure de diversion. Notamment, le Rwanda accueille déjà des dizaines de milliers de réfugiés, du Burundi par exemple, mais aussi de la République démocratique du Congo. Et dans quelles conditions? Pas toujours évidentes.
Voilà, alors en fait, le Rwanda a globalement une politique ouverte par rapport aux réfugiés et en ce sens, il se distingue d'autres pays de la région comme l'Éthiopie ou le Kenya où les réfugiés n'ont pas la liberté de circulation, n'ont pas le droit de travailler. Ce n'est pas le cas au Rwanda qui donc leur octroie le droit de travailler, l'accès aux services publics. Maintenant, la difficulté, c'est vraiment la mise en œuvre de cette politique. Ce que l'on sait, c'est que les réfugiés au Rwanda ont souvent des difficultés à accéder à la terre, à accéder à l'emploi. L'accès aux services publics est compliqué pour les réfugiés en milieu urbain et d'après le HCR, à peu près 90% des réfugiés au Rwanda continue de dépendre de l'aide humanitaire. Et donc ça, il y a principalement deux raisons qui expliquent cette situation. C'est d'abord une raison financière, puisque en fait le HCR rapporte que près d'un tiers du budget qu'il demande chaque année pour l'aide aux réfugiés lui est fournie. Donc un problème, une insuffisance financière. Et le deuxième problème, c'est aussi la difficulté de créer des services intégrés pour les réfugiés et les communautés d'accueil, surtout dans des zones où bien souvent les populations locales sont déjà extrêmement vulnérables.
Voilà, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies, qui avait dû par exemple il y a un an réduire les rations alimentaires distribuées dans leurs camps pour cause d'insuffisance de financement, ça avait créé des émeutes et des manifestations. Camille Lecause, la plupart des réfugiés africains sont en Libye aujourd'hui, sont dans ces camps?
Non, bien sûr que non. En fait, la plupart des réfugiés donc sont dans d'autres pays africains, en particulier en Afrique, en Ouganda, au Soudan, au Kenya. Et donc, en fait, il y a vraiment une discussion à l'échelle globale sur comment favoriser l'accès aux droits sociaux et économiques de ces réfugiés dans les pays africains. Et donc ça, je vous renvoie au pacte mondial pour les réfugiés qui avait été adopté l'année dernière au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies.
On avait beaucoup parlé du pacte mondial pour les migrations, mais pas pour les réfugiés.
Exactement. Et donc à l'époque, ce pacte était passé un peu inaperçu. Mais en fait, il est très important, notamment parce que l'un des piliers de ce pacte, c'est vraiment d'encourager à l'inclusion sociale et économique des réfugiés et de faire en sorte que les réfugiés ne soient plus seulement dépendants de l'aide humanitaire, humanitaire dans ces pays africains, mais deviennent également des acteurs du développement local.
Alors, l'Union européenne envisage peut-être, on ne sait pas, de contribuer financièrement au dispositif dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique créé en 2015, contribuer à cette politique d'accueil dans les pays africains. Elle hésite, des discussions sont en cours. Pensez-vous qu'il y aura à terme une volonté d'encourager d'autres pays africains à faire de même, d'autant que ce qui s'est passé ces derniers jours dans le nord de la Syrie, en Turquie, l'offensive militaire turque qu'Ankara a d'abord justifié par l'afflux de migrants syriens qu'elle voulait, disait-elle, installer dans cette zone, ça interroge sur les partenariats que l'Union européenne signe avec des pays tiers. Donc est-ce que ces accords signés en Afrique avec l'Union africaine et le HCR, ça peut être une solution de long terme ?
En fait, c'est très compliqué parce que ces États africains, comme je le disais, accueillent déjà des centaines de milliers de réfugiés, donc dans des conditions parfois difficiles où eux-mêmes ont des difficultés à assumer l'accès à l'emploi pour leur propre population, l'accès aux services publics pour leur propre population. Donc il va falloir quand même, de la part de l'Union européenne, leur proposer un soutien supplémentaire.
Mais alors cet accord avec la Turquie, cet accord signé en 2016, le renvoi, les termes de l'accord étaient les suivants. Les migrants qui arrivaient en Grèce étaient renvoyés en Turquie contre une aide financière de 6 milliards d'euros. À l'aune de ce qui est en train de se passer, est-ce qu'il y a une réflexion sur modifier cet accord ou tout simplement l'abroger ?
Oui, je pense qu'en fait, dès le début, lorsque cet accord avec la Turquie a été mis en place, mais il y a eu d'autres accords, même si c'est un peu différent, notamment avec la Libye, l'Union européenne et les États membres sont très conscients que souvent, ce sont des accords de court terme qui ne vont pas pouvoir se poursuivre dans le temps, parce qu'avec des pays comme la Turquie et la Libye, on se doute bien que ça va être soumis à des conditions un peu compliquées. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'Union européenne peut profiter de ces accords, en fait, pour bien réformer sa politique commune, notamment sur l'asile, ce qui a été en discussion maintenant depuis 3 ans, et ce que l'on voit, c'est que ça n'a pas été le cas. Donc ça reste quand même un gros problème.
Dernière question, les 6 milliards d'euros que l'Union européenne devait destiner à la Turquie dans le cadre de cet accord, est-ce que ce sont 6 milliards que la Turquie a touché, a effectivement encaissé ?
Non, et ça c'est quand même important de le souligner. Ces 6 milliards, c'était un fonds qui a été mis en place pour les réfugiés en Turquie. Et donc la plupart de ces financements sont allés vers des organismes tels que l'ONU ou des organisations non gouvernementales pour soutenir les réfugiés en Turquie.
Donc c'est pas la Turquie qui l'a touché, voilà. Ben merci beaucoup Camille Lecause d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste au sein du think tank Migration Policy Institute basé à Bruxelles. Merci d'avoir été à Paris avec nous ce matin.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les Enfants du Marais, un concert fiction France Culture. L'écrivain et violoncelliste Pascal Quignard nous propose un conte cruel et surnaturel en plein XVIe siècle, au cœur du quartier parisien Le Marais. Entre guerre de religion et rivalité artistique, Les Enfants du Marais, ce samedi 19 octobre à 20h, au studio 104 de la Maison de la Radio, avec l'Orchestre Philharmonique et la maîtrise de Radio France. Programme et réservation sur le site maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16.
France Culture présente le DVD Los Silencios de Béatrice Seigné. Nouria, 12 ans, Fabio, 9 ans et leur mère, fuyant un conflit armé, arrivent dans une petite île au milieu de l'Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Leur père a disparu.
Ils encontraron el cuerpo.
Es que lo mataron los paramilitares.
Un jour, il réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. Ici, tout est normal, mais tout est magique.
Tu abuelita ya te ha contado sobre los fantasmas de acá de la isla.
Los Silencios, actuellement en DVD. Un partenariat France Culture.
Bonjour et bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez à l'instant. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
6h57, c'est votre humeur du jour Guillaume, et si le monde n'avait aucun sens ?
Mais oui Julie, et si le monde n'avait aucun sens et si Johnny n'avait pas d'héritage ? Alors je dis ça parce que j'ai lu quelque part que Johnny, d'après les derniers décomptes, devait à peu près 30 millions d'euros au fisc, tandis que son patrimoine s'élevait peu ou prou à 30 millions, ce qui veut dire que l'héritage de Johnny s'élève, si mes calculs sont bons, à environ 30 moins 30, c'est-à-dire à peu près à zéro. Et alors on est pris de vertige. il se pourrait fort bien, Julie, qu'on ait fait tout ça pour rien. Tout ça, je veux dire, ces milliers de couvertures, ces centaines d'heures de direct dédiées aux disputes familiales chez les Johnny, lors de la première audience où il s'agissait de savoir qui des Hallyday devait hériter de Johnny, on a enregistré un record de journalistes. Jamais aucun tribunal en France n'avait accueilli autant de micros et de caméras que ce jour-là. Alors bien sûr, je pourrais, ça serait facile, dire qu'on n'en a pas fait autant, je ne sais pas moi, pour le Rwanda. Je pourrais aussi rappeler que les couvertures sur l'héritage de Johnny se sont toujours très 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 bien vendues. Hélas, faute de quoi, nous serions probablement passés à autre chose. Oui, mais voilà, il n'y a peut-être pas d'héritage de Johnny. Un peu comme si Dupont de Ligonnès n'avait jamais tué personne et encore moins été arrêté parce qu'il n'existait pas. Un peu comme si l'on n'avait jamais parlé du Brexit parce que la proposition n'avait jamais été votée. Jamais, au grand jamais, l'Angleterre n'avait voulu quitter l'Union européenne. Un peu comme si Éric Zemmour développait une pensée social-démocrate, une synthèse exigeante et inattendue de Raymond Aron et d'Alfred Sauvy. Il n'y a pas plus d'héritage de Johnny que de controverses charismatiques. Celle qui fit au XIIIe siècle dépenser de l'encre, de la salive et aussi un peu de sang pour savoir si le Christ était réellement présent dans l'hostie ou s'il l'était en symbole. Johnny en réalité était pauvre, comme Saint François de Sales. Il lègue la moitié de son perfecto à sa femme, l'autre moitié à ses enfants. Le rock'n'roll est vivant, son patrimoine est mort.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
L'autisme est au cœur de l'actualité depuis les attaques dirigées contre Greta Thunberg jusqu'à la fiction qui s'empare de plus en plus de ce thème. On en parle aujourd'hui avec Hugo Auriot qui a fait de son trouble autistique une cause militante et de deux cinéastes. Olivier Nakache et Eric Toledano, ce duo consacre un film profondément émouvant sur ce thème. Le film s'appelle Hors Normes, il sera dans les salles mercredi prochain. Nous recevrons Hugo Auriot, Nakache et Toledano aux environ de 7h40. En attendant, il est 7h et je vous souhaite un excellent réveil.